Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of. In a lullaby.
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission sur le conte. Et aujourd'hui, on va vraiment voyager parce qu'on va partir en Amérique centrale. J'ai trouvé les contes que je vais vous partager aujourd'hui dans un bouquin d'Henri Gougaud qui s'appelle L'Arbre au Trésor. C'est un petit peu ma Bible, je dois bien l'avouer. C'est mon livre de chevet. C'est celui que je conseille toujours quand les gens veulent découvrir le conte. Je conseille les livres d'Henri Gougaud, il y a plusieurs recueils comme ça avec des légendes du monde entier. Pour découvrir le conte, c'est formidable, il y en a forcément une ou plusieurs que vous allez adorer. Voyons si ça va marcher avec vous aujourd'hui, chers auditeurs de Fréquence 7. On part en Amérique centrale, c'est parti. Croyez-vous que la mort soit un malheur imposé par verdict céleste? Non. En bon voyageur, chaque homme prend seul sa décision de quitter son corps et sa maison, mais il l'ignore. Cela se juge au fond secret de son cœur. Quand un homme a décidé de mourir, les esprits de l'air, de l'eau et du feu entendent l'appel de son âme. Alors, la nuit venue, ils sortent de la forêt et vont l'attendre, penchés sur le hamac où dort le corps qu'elle habite. Dès qu'ils la voient sortir de lui, ils la saisissent, l'enferme dans une petite jarre et l'emporte sans bruit. Quand cela survient, l'homme est à peine malade et son âme est minuscule. Les esprits de l'air, de l'eau et du feu la posent sur une fleur d'orchidée et la protégeant comme une flamme fragile, ils vont la présenter au dieu de la pluie. « Vois ce que nous t'avons apporté, lui disent-ils. N'est-ce pas une belle vie ?» Mais le dieu de la pluie, noble, trop noble personnage, refuse leur offrande. Il se détourne, la bouche dédaigneuse, agite son vêtement de nuée. « Allez-vous-en, leur dit-il, je ne veux pas chez moi de cette chose. » Et le tonnerre gronde, et l'averse s'abat sur la forêt. Alors les esprits remettent l'âme dans la petite jarre, et l'âme grandit. Elle est notre être véritable. Ils la soignent jalousement, avec une tendresse très vigilante. Bientôt, prenant vigueur, elle se retrouve à l'étroit dans la jarre première. Alors ils la mettent dans une autre plus spacieuse, afin qu'elle grandisse à son aise. Dès l'instant où elle entre dans la jarre deuxième, le corps de l'homme qu'elle a quitté se sent las et souffrant. Il ne peut plus se lever de sa couche. Son âme grandit encore, jusqu'à ne plus contenir dans la jarre deuxième. Alors les esprits, contents comme des pères devant leur enfant affamé de vie, la prennent dans leurs mains et la déposent dans une troisième jarre, la plus vaste qu'ils aient. À ce moment, l'homme dans son hamac sait qu'il va mourir. Il ne peut plus manger, ni parler, ni ouvrir les yeux à la lumière. Son âme a son visage, sa chevelure, son regard, sa beauté, mais elle n'est pas plus haute qu'un cœur. Il faut qu'elle grandisse encore, jusqu'à atteindre la taille d'un enfant. Alors les esprits la sortent de la jarre troisième. Et au même instant, le corps trépasse. Et voyant ce corps gisant sans vie, l'âme se prend à rire, joyeuse, délivrée. Elle rit de voir réduite à l'état de cadavre la carcasse où elle a si longtemps sommeillé et qui a si longtemps douté d'elle. Elle rit de voir sa famille en pleurs, et ses voisins contrits, et sa femme ignorante en appelant le ciel. Elle rit parce que ces gens autour du défunt ne soupçonnent pas sa présence. Elle rit parce qu'elle est immortelle, et qu'elle le sait maintenant. Elle est l'être véritable, je vous l'ai dit. Ne m'avez-vous pas entendu tout à l'heure? Pourquoi donc vous trompez-vous encore à pleurer ceux que vous croyez morts, et qui vivent, savants et paisibles, chez les esprits?
Somewhere
J'aime beaucoup quand les contes nous donnent une autre manière de voir les choses. Voilà maintenant une autre histoire d'Amérique centrale. Il était une fois un jeune homme appelé Toquin. Il vivait avec ses frères dans un village de branches à la lisière de la grande forêt amazonienne. Mais il était si rêveur et silencieux, si dénué du souci de lui-même et des autres, qu'il paraissait ne pas être chez lui sur la terre de ses ancêtres. En vérité, il vivait plus haut que son front, fasciné par le ciel, la lune et les étoiles. Tous les soirs, à l'heure où les siens ne songeaient qu'à dormir sur leur litière de feuilles sèches, il se couchait dans l'herbe devant sa porte et contemplait la vaste nuit, avec tant de bonheur qu'il ne savait plus parfois s'il habitait l'univers ou si l'univers habitait son regard. Or un soir, il découvrit une étoile qu'il n'avait jamais vue. Elle brillait au fond des ténèbres, jubilante, moqueuse. Toquin la contempla, le cœur battant et se retenant de respirer par crainte de la perdre. « Si je pouvais tendre la main et l'attraper comme un oiseau, se dit-il, je serais le plus heureux des fous. Je l'enfermerais dans un roseau, je pourrais lui parler, emplir mon cœur de sa présence, elle ne me quitterait jamais. » Il soupira et sentit tout à coup envahi par un sommeil invincible et presque aussitôt se dressa en hurlant. Une éclatante lumière venait d'apparaître à quelques pas de lui sur la prairie. Il mit les mains sur son visage, courba le dos, craignant un terrible prodige. Mais rien ne vint. Alors il écarta les doigts et découvrit éberlué une jeune fille tout environnée dans la nuit de brumes lumineuses. Elle était d'une beauté fraîche, tendre et si vive que Toquin resta un moment tout béat. Quand il put parler, il lui dit « Mais qui es-tu? D'où sors-tu ?» Et elle lui répondit « Je suis celle que tu as appelée. Je suis l'étoile que tu veux enfermer dans un roseau. »« Mais comment peux-tu être une étoile ?»« Je le suis, » dit la jeune fille. « Pour toi, c'est un mystère, mais pour moi, non. La vie est plus vaste que tu ne crois. M'aimes-tu ?» Toquin fit oui de la tête, la gorge bouillonnante de paroles inexprimables. Elle lui dit encore « Demain matin, je t'accompagnerai à la chasse. Dormons maintenant. » Elle l'attira sur l'herbe et ils se couchèrent. Le lendemain, dès le jour levé, ils s'en furent ensemble dans la grande forêt. Ils marchèrent longtemps à travers les broussailles sans rencontrer le moindre gibier. À l'heure où le soleil est au plus haut du ciel, ils parvinrent dans une clairière illuminée, paisible, ronde, où Toquin n'était jamais venu. Au milieu de cette clairière était un palmier si magnifiquement élancé que son feuillage dépassait celui des plus grands arbres alentour. Devant lui, ils firent halte et levèrent la tête. « Vois comme ces fruits sont beaux, » dit la jeune fille, désignant la cime. « Peux-tu les atteindre ?»« Bien sûr, » répondit Toquin. Il déposa son arc et ses flèches dans l'herbe et se hissa vaillamment le long du tronc. À peine était-il parvenu aux palmes vertes qu'il entendit sa compagne en bas l'appeler. « Cramponne-toi ferme » cria-t-elle. Elle se mit à grimper derrière lui. Aussitôt, le palmier grandit tant que Toquin, agrippé au feuillage comme un nourrisson à sa mère, vit la terre s'éloigner et la forêt apparaître semblable à un maquis lointain et ondulant. L'arbre perça les nuages. Toquin ferma les yeux. « Donne-moi la main, lui, » dit la jeune fille. Il obéit, se sentit brusquement entraîné en plein ciel et se retrouva éberlué sur une vaste plaine de sable, de cailloux et d'herbes rares. Il aperçut à l'horizon, plantée seule sur ce désert, une petite maison au toit de pierre plate. La jeune fille, le voyant surpris, lui sourit et caressa son visage. Elle lui dit « N'aie pas peur, attends-moi ici. » Elle s'en alla vers la maison. Toquin resta tranquillement assis par terre, le menton posé sur les genoux. Dès qu'il la vit revenir dans la lumière lointaine, il se leva et s'enfuit à sa rencontre. Elle portait un panier de fruits et de pain. Ils mangèrent de bon appétit. Quand ils furent rassasiés, le jeune homme prit son souffle pour poser les questions qui le tourmentaient depuis qu'ils avaient quitté la clairière. Mais sa compagne lui mit la main devant la bouche et lui dit « Je dois encore t'abandonner un moment. Quoi qu'il advienne, ne bouge pas de là. » Elle lui parut inquiète soudain. Elle dit encore « Promets-moi d'être patient. » Et il promit. Elle s'éloigna, se retourna, lui fit un signe de la main, puis courant si vite qu'elle semblait à peine effleurer le sable, elle disparut au loin. Alors Tocquin entendit des voix, des bruits de fête, des chants. Il se leva étonné. Cette rumeur joyeuse semblait sortir d'un roc aussi haut qu'une porte au milieu de la plaine. Il s'avança, à pas prudents. Les chants se firent plus beaux, la fête plus vive, les voix plus exaltées. Encouragé, il marcha franchement jusqu'au rocher, le contourna et aussitôt s'arrêta, les jambes tremblantes, découvrant les gens qu'il avait attirés dans ce lieu. Il n'était pas un qui ait chair sur les os. Tous étaient des squelettes grinçants, agités de convulsions horribles. Les uns battaient du tambour, les autres soufflaient dans des flûtes ricanantes, et les corps décharnés s'entrechoquaient. Les faces sans regard riaient terriblement, les bras s'agitaient en cliquetant, semblables à des membres de pantins grotesques. Tocquin voulut crier. Il ne fit que gémir. Il faillit tomber, se raccrocha au rocher et déguerpit, l'effroi aux trousses, droit devant lui. Au bord de la plaine, il aperçut la cime du palmier. Alors il y courut. Son seul désir était maintenant de revenir sur terre, de retrouver le village de ses ancêtres, la maison de Branche, ses frères. À l'instant où il allait bondir dans les palmes vertes, il se sentit retenu par le bras, il se retourna. La jeune fille aimée à nouveau était là, si proche et si belle, qu'il ne vit plus autour d'elle ni ciel ni plaine. Une brise douce agitait sa chevelure. Elle lui dit tristement « Quel malheur que tu ne m'aies pas attendu !» Il ne put répondre tant il était essoufflé. Elle dit encore les larmes aux yeux « Tu pars, Tocquin, mais tu reviendras bientôt. Je t'attendrai, moi, fidèlement. » Tocquin se détourna, sauta dans le feuillage et le palmier rétrécit. Et la terre apparut, et la forêt, et la clairière. Il descendit de l'arbre. Alors il se sentit pris de fièvre et d'insurmontable faiblesse. Il tomba à genoux, voulut se redresser, il n'y parvint pas. Il appela à l'aide, nul ne lui répondit. À grands efforts haletants, il se traîna à travers les buissons jusqu'à sa maison. Ses frères le couchèrent sous une couverture et allumèrent du feu près de lui car il grelottait. Il parut un moment sommeiller. Son souffle faiblit. À l'heure où les étoiles s'allument dans le ciel, il entendit murmurer à son oreille « Viens, Tocquin, ne tarde pas, ne me laisse pas seul, je t'aime. » Il ouvrit les yeux, sourit et mourut. Une autre histoire, ailleurs, commença. Ah, vous êtes étonné hein, par ces contes d'Amérique centrale. Vous n'avez pas l'habitude que je vous raconte ce genre de choses. Hein. Eh bien, on continue. Quand les hommes meurent, leur âme s'éloigne. Elles errent dans la jungle jusqu'à ce que devant elles s'envolent des perdrix dans un grand frémissement de buissons. Alors les âmes, avec ce vol de perdrix, s'élèvent vers le soleil où est leur demeure. Il advint qu'un jour, de ces esprits fantômes revinrent dans le village où ils avaient autrefois connu la vie. Ce village était presque désert. Les habitants avaient été massacrés par des guerriers inconnus ou avaient fui vers d'autres lieux, laissant leur hutte à l'abandon. Seule une vieille femme vivait encore là. Quand vinrent les fantômes, elle se tenait agenouillée devant le bûcher funèbre où le corps de sa fille, qui venait de mourir, achevait de se consumer. Elle les vit envahir en grand nombre le village, aller de ci, de là, en parlant haut, visiter les huttes vides et les maisons communes dont le toit était à demi effondré. Sa fille morte était parmi eux. Elle avait le beau visage rieur qui était le sien de son vivant. Deux fleurs rouges ornaient ses oreilles. Son corps semblait baigné dans une brume légère. Dès qu'elle vit sa vieille mère, elle vint s'asseoir près d'elle devant le bûcher où ne fumait plus que des cendres éparses. Elle tendit la main vers ses cendres et demanda « Mère, pourquoi la terre est-elle ainsi poudreuse et noire ?»« « Fille, répondit la vieille, ton frère tout à l'heure a fait brûler de l'herbe. Mère, pourquoi tes joues sont-elles mouillées et salies de poussière ? Fille, ton frère les a frottées de racines humides ? Mère, à quel vivant furent ces ossements dans cette calebasse ? Fille, ce sont des branches brûlées de l'arbre Korori. » Comme elle parlait ainsi, partout alentour s'affairaient les fantômes. Les uns revenaient de la jungle chargés de troncs d'arbres, d'autres hissaient des madriers neufs dans la vieille charpente de la maison commune, d'autres encore, à la lisière de la forêt, taillaient des branches feuillues pour réparer les toits crevés des huttes. Des femmes, à grands cris, appelaient leurs enfants, et les enfants leur répondaient, courant et piaillant parmi les hommes au travail. Près de sa mère, la jeune morte contemplait les restes noircis de son corps dans la calebasse. Elle ne pouvait en détacher son regard. « Mère, dit-elle tout à coup haletante, ce ne sont pas là des branches de l'arbre Korori, mais des ossements. À qui furent-ils ? » Un perroquet vint se pencher sur l'épaule de la vieille vivante. Il ouvrit son bec et répondit, « Fille, ils furent les tiens. » Au même instant, au bord de la jungle, les broussailles parurent s'animer. Elles firent au soleil comme une brève rumeur de tempête. Une nuée de perdrix s'envola. Aussitôt, tous les fantômes disparurent. La mère voulut retenir sa fille. Ses mains tremblantes se refermèrent sur un souffle de fumée, s'égarèrent dans l'air calme au-dessus de sa tête. Le village était à nouveau silencieux et désert. Les perdrix étaient déjà loin dans le ciel. Les âmes les suivaient, légères, impalpables, en chuchotant à voix inquiète. « Pourquoi les oiseaux nous sont-ils invisibles ? Nous entendons le bruit de leur plumage dans l'air. Nous savons qu'ils nous entourent, qu'ils nous portent peut-être. Mais pourquoi ne pouvons-nous éprouver leur chaleur ni distinguer les contours de leur corps ?» Aucune âme ne savait la réponse à cette question. En vérité, les âmes ne peuvent voir les perdrix, parce qu'elles regardent ailleurs, elles regardent au loin, toujours plus loin, dans le ciel. What a wonderful world. C'est déjà le moment de se quitter. On s'est bien promené en Amérique centrale parmi les morts, les âmes. Ah, oh, j'adore ce genre d'histoire. Ça vous a fait voir la mort d'un autre œil, n'est-ce pas ? Vous avez un autre regard là-dessus. C'est vrai que ça change de voir les choses de cette manière. On se retrouve de toute façon très bientôt, tous les mercredis, tous les samedis à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, racontez-vous des histoires.